Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h, comme tous les jours. Je ne suis pas seule dans ce studio pour prendre soin de vous, pour vous informer. Il est à mes côtés, bien sûr, avec le sourire toujours. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Sourire masqué quand même. Hein,
mais sourire quand même. Bonjour ouais. Mélanie, bonjour à tous.
Merci Jimmy. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à nos reins, ces organes auxquels malheureusement on ne s'intéresse pas assez et qui parfois montrent quelques défaillances. Aujourd'hui, on va donc tout vous dire sur l'insuffisance rénale. De quoi s'agit-il précisément? Comment se traite cette maladie? Eh bien, pour nous éclairer justement, notre invité, ce sera le professeur Gilbert Deray. Il est chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les maux du quotidien. Focus sur un mal assez fréquent et qui peut être très gênant, l'ulcère gastrique. Savez-vous qu'il peut être souvent causé par une infection? Comment le soigner? Le docteur Jimmy Mohamed fera le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous dira tout sur les positions sexuelles préférées des femmes, en tout cas pour des raisons anatomiques.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va écouter cette question de Clémentine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous téléphone, j'ai régulièrement mal à la poitrine en ce moment. Ça me sert à plusieurs reprises dans la journée et puis ça passe. Est-ce que ça pourrait être un infarctus qui se prépare? Je suis stressée en ce moment, mais je voudrais savoir quels sont les symptômes exactement qui permettent de dire que c'est cardiaque ou bien qu'il faut consulter.
Alors, pour vous répondre, Clémentine, on a interrogé un spécialiste du cœur, le professeur Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On l'écoute.
L'infarctus lui-même, c'est généralement une douleur importante qui serre la poitrine, qui fait comme un gros poids sur la poitrine, en plein milieu de la poitrine, et qui peut survenir à n'importe quel moment. Une des caractéristiques de cette douleur, c'est qu'elle va durer assez longtemps. En général, elle ne s'arrête pas toute seule. Et donc, ça va, si on ne fait rien, ça va durer pendant plusieurs heures. C'est souvent assez inquiétant, assez angoissant comme douleur. Et c'est une douleur que les malades décrivent comme une douleur assez particulière. Ça ne ressemble pas à grand-chose d'autre. Ce n'est pas du tout comme une brûlure, comme un coup de poignard, comme des picotements, etc. Si on a une douleur de ce type et qui, au bout de 5-10 minutes, ne s'est pas passée, il ne faut absolument pas hésiter. Il faut faire le 15. Et puis, si pense que ça risque d'être un infarctus véritablement, ben à ce moment-là, ils vont vous envoyer une ambulance qui pourra faire un électrocardiogramme et en fonction du résultat de l'électrocardiogramme, vous serez ou vous ne serez pas hospitalisé. Si c'est un infarctus, évidemment, vous serez hospitalisé parce qu'il faut déboucher l'artère le plus vite possible.
Voilà, c'était le professeur Danchin au micro de Benjamin Lévesque, le professeur Danchin qui sera justement notre invité jeudi prochain pour nous dire tout ce qu'il faut savoir sur l'infarctus. Alors Jimmy, passons tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, elle est pour vous. C'est Rebecca. On l'écoute.
Oui, bonjour à tous les deux. Alors, ma petite fille de 5 ans a une petite carie. En tout cas, je pense parce que je vois un petit point noir, même si elle ne se plaint de rien. Alors, c'est si important que ça de soigner une carie sur des dents de lait? Parce qu'après tout, bon, les dents de lait, on sait très bien qu'elles ne vont pas tarder à tomber.
Alors Jimmy, des dents de lait cariées, est-ce que c'est si grave que ça, finalement?
Oui, c'est grave et même très grave. Il faut savoir que les dents de lait, elles apparaissent vers 6 mois et elles vont rester pour certaines jusqu'à l'âge de 12 ans et donc elles vont accompagner une grande partie de l'enfance des enfants. Alors évidemment que c'est important puisqu'elles vont guider la forme du visage, elles servent évidemment à l'alimentation mais elles vont aussi guider le développement des futures dents définitives. Et donc si jamais on a des dents cariées, la position peut être altérée, puis même la racine de la dent définitive peut être atteinte si on néglige cette carie. Donc les dents de lait doivent absolument être traitées, même cariées.
Donc ça veut dire que si on voit quelque chose, et là elle décrit un petit point noir dans la bouche de sa petite fille, il faut consulter. D'ailleurs, même si on ne voit rien, à partir de quel âge on amène un enfant chez le dentiste?
Alors,
pour contrôler que tout va bien?
On peut avoir une carie même en l'absence de petits points noirs au niveau de la dent.
Oui, parce que si elles sont entre deux dents,
exactement,
par exemple.
Exactement, parfois entre deux dents. Parfois, vous avez ce qu'on appelle des sillons, c'est-à-dire que la dent elle a des reliefs plus importants, c'est un signe de carie. Puis même, le dentiste sera à même de détecter des caries très précoces. Et donc, d'une façon générale, on n'attend pas d'avoir une carie pour amener son enfant chez le dentiste. Et on n'attend surtout pas que l'enfant ait mal pour aller consulter. Donc, on pourrait amener l'enfant dès l'âge de 1 an, mais même avant l'apparition des dents, pour un contrôle. Parce que parfois, on se rend compte qu'il va y avoir des mauvaises habitudes qu'on va prendre qui vont être source de caries. Donc, entre 1 et 2 ans, amenez tous vos enfants chez le dentiste. Et puis, à partir de 3 ans, la Sécurité sociale vous envoie un bon tous les 3 ans pour faire un bilan, contrôle le gratuit, MT-dent, le MT-dent.
Bien sûr, c'est super. Alors, le mieux, c'est quand même de les prévenir, ces caries. Vous avez quelques conseils peut-être pour l'hygiène dentaire dès le plus jeune âge? Parce que d'ailleurs, ça doit démarrer finalement dès qu'il y a des dents.
Exactement. On commence à brosser les dents dès qu'il y a des dents. On peut commencer
donc
avec
à
une
six
petite
mois,
compresse.
On, voilà, on brosse
exactement.
Avec quoi? C'est pas
une
évident.
Petite compresse, ouais. Tout simplement, qu'on peut imbiber de dentifrice. Vous savez, vous effleurez le tube du dentifrice, sans fluor, évidemment. Vous faites ça simplement une fois par jour. À partir de 2 ans, vous commencez vraiment à brosser les dents le matin et le soir. Et c'est les parents qui doivent brosser les dents jusqu'à
l'âge
de... Oui,
parce que moi, à 3 ans, elle le fait, mais elle fait n'importe quoi.
Et le font mal. Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on doit guider le geste et on ne laisse pas un enfant en roue libre 2 fois par jour pendant 2 minutes. On n'hésite pas à utiliser le fil dentaire, même chez les tout-petits, puisque les débris alimentaires qui vont rester coincés entre les dents vont nourrir les bactéries. Et puis, dernière chose, attention aux boissons sucrées, en particulier le biberon, le syndrome des biberons, l'enfant qui va s'endormir avec. Déjà, il va avoir un mauvais sommeil, mais en plus de ça, c'est riche en sucre et va donc attaquer les dents.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Rebecca, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir sur notre plateau notre invité du jour, c'est le professeur Gilbert Deray. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et avec vous cet après-midi, on va faire un zoom donc sur l'insuffisance rénale, une maladie mal connue et pourtant qui concerne beaucoup, beaucoup de Français, je crois.
Oui, absolument. Si vous, alors, il y a d'abord le stade, on va dire, ultime, c'est-à-dire les patients qui sont soit dialysés, soit transplantés. Là, on parle à peu près de 70 000, 80 000 personnes. Mais il y a probablement plus de 3 millions de personnes qui ont une insuffisance rénale en France.
Ah,
il
n'y
a pas de statistiques très précises. C'est au moins 3 millions. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que quand on voit la fréquence du diabète, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, qui sont des facteurs de risque, et le vieillissement de la population... Il est logique qu'on ait autant d'insuffisance rénale.
3 millions, c'est incroyable.
Alors du coup, schématiquement, qu'est-ce que c'est qu'une insuffisance rénale?
Alors, une insuffisance rénale va être définie par une moindre capacité du rein à filtrer le sang, même si c'est en fait pas du tout la seule chose que fait le rein. Et nous avons des définitions qui sont biologiques. On dose un item qui s'appelle la créatinine dans le sang, qui est un produit du muscle qui est libéré dans le sang en permanence. La créatinine a une norme. Si on est au-dessus de cette norme, c'est qu'on a une insuffisance rénale, tout simplement parce que le rein n'est plus capable de filtrer, d'enlever la créatine du sang. Donc le rein n'est plus en capacité de faire son travail, ou l'un de ses travaux, qui est de filtrer le sang correctement. Rappelons qu'il y a 100 000 km de sang et d'artères dans le corps, 100 000, qu'il y a des milliards de cellules qui déversent plein de choses, et que donc il faut qu'il travaille dur, mon petit rein très sympathique et magnifique, pour filtrer tout ça.
Alors on va quand même rassurer, je ne sais pas nos auditeurs, mais on a parlé de gens qui étaient greffés, dialysés, ça c'est les stades ultimes, mais quand on a une maladie rénale, c'est pas du jour au lendemain qu'on est, à moins qu'il y ait une infection ou je ne sais quoi, mais au départ c'est une maladie, je ne sais pas si c'est rassurant, qui est insidieuse et qui se développe quand même lentement.
Alors c'est un avantage et un inconvénient. Effectivement, le rein c'est un organe tellement sympathique que, contrairement au cœur ou au cerveau, il est tranquille dans son coin. Si vous perdez un peu de votre fonction cérébrale, on va vite le savoir, Mélanie, parce que la radio, ça ne va pas passer. Si vous perdez une partie de votre fonction cardiaque, vous ne serez pas bien, parce que vous n'arriverez pas à respirer. On peut perdre jusqu'à 80-90% de la fonction rénale quasiment rien sentir. On est fatigué, on peut avoir des troubles digestifs, on a une anémie, donc on ne se sent pas bien, mais il n'y a pas de signe très spécifique. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on peut avoir une insuffisance rénale et rester en forme, c'est ce que je dis à mes patients. C'est un inconvénient, c'est que du coup, souvent, le dépistage, il est tardif. Or, plus vous le faites tôt, plus vous mettez en place des mesures de protection et moins vous éviterez d'aller à la dialyse.
Mais justement, comment on fait pour savoir si on a des reins en bonne santé? Est-ce que, vous l'avez dit, il y a peu de symptômes qui peuvent nous alerter? On ne peut pas s'en rendre compte, nous, et on est obligé d'aller consulter?
Il y a quelques signes qui sont ce que j'ai dit, c'est-à-dire la fatigue, si on trouve une anémie, c'est-à-dire un manque de globules rouges. Les œdèmes, quand on a les jambes gonflées ou les paupières gonflées, ça c'est un signe qui est intéressant. Et sinon, on ne peut pas. Donc c'est en fait sur des éléments qui sont simples. Premièrement, si vous êtes hypertendu, il faut aller vérifier la fonction rénale. Ça peut s'accompagner d'une insuffisance rénale. Quand on a une insuffisance rénale, on est souvent hypertendu, quand la pression artérielle est élevée. Deuxièmement, il y a toutes les situations dites à risque. Si vous avez un diabète, si vous avez une hypertension artérielle, si vous avez par exemple déjà les coronaires malades, alors il faut aller vérifier le taux de créatinine. Et puis également, vous pouvez vérifier s'il y a de l'albumine dans les urines en mettant une petite bandelette ou au laboratoire. Ça, c'est aussi un signe. Et enfin, il y a des situations qui sont particulières, qui sont la grossesse par exemple, qui est une situation où on vérifie systématiquement la fonction rénale. Donc déjà, si on fait ce dépistage de façon systématique, on va attraper la majorité des personnes qui ont une insuffisance rénale.
Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, je sais, c'est pas dégoûtant, mais est-ce que ça sert à quelque chose de regarder la cuvette des toilettes et à quoi ressemble et où?
Et oui.
Où est-ce qu'il y a une odeur dans le pipi?
Non,
quoi,
il y a tout un art de,
ouais,
de,
alors
du pipi.
Alors expliquez-nous l'art du pipi.
Il y a
voilà.
Tout un art.
Ça, c'est simple, là, pour
Mélanie,
le coup.
Il y a tout un art. J'adore cet organe qui est le rein. Il est absolument magnifique. Et oui, alors avant.
Il doit
même,
voir quelle couleur mon pipi et quelle odeur.
Avant, on mettait le doigt dedans. Si c'était sucré, c'est que vous aviez un diabète.
Alors, est-ce qu'on peut éviter de mettre le doigt dedans et de
on va
de
plus
le
faire.
Ouais.
Alors, une urine, ça doit être jaune, plus ou moins foncé en fonction de ce que vous avez bu, mais jaune. Quand vous faites pipi, vous ne devez pas avoir mal et le jet doit être, on va dire, normalement puissant et il n'y a pas d'odeur.
Il n'y a pas d'odeur. Le pipi qui sent, ce n'est pas bon signe. Alors.
Voilà. Alors, si vous avez, il y a plein de possibilités. Si vous avez le pipi qui sent, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez une infection urinaire, c'est un grand classique. Soit vous avez mangé des choses, alors
classiques,
des asperges
ouais.
Évidemment. Il y a aussi des médicaments qui donnent des odeurs. Donc, si le pipi sent, voyez votre médecin. Il va voir. Si ça sent que ça brûle et que vous faites pipi souvent, un classique, c'est que vous avez une infection urinaire, on va la traiter. Quant à la couleur, il faut faire attention à une urine, par exemple, qui est rouge. À moins que vous ayez mangé, par exemple, des betteraves ou des choses avec des colorants de betteraves, il faut vraiment consulter. Parce que si vous avez une petite tumeur, un cancer, par exemple, ou si vous avez un caillou dans le rein, ça donne des urines qui sont rouges. Donc oui, très intéressant d'observer vos urines tous les jours.
Bon, bah, super conseil, professeur Doré. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez, bien sûr, avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le professeur Gilbert Deray. Vous êtes chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors professeur, une fois que cette maladie rénale, elle est identifiée, on a expliqué de quoi il s'agit tout à l'heure, je crois que l'urgence pour vous les médecins, c'est déjà d'arriver à freiner son évolution parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, je crois, aujourd'hui.
Absolument. Vous avez deux types d'insuffisance rénale, hein, vous avez la forme aiguë et la forme chronique. Alors oui, si c'est une forme aiguë, c'est-à-dire par exemple votre rein a été agressé par certains médicaments, le rein est un organe qui se régénère remarquablement. Il est extrêmement résistant. Là, ça revient en arrière. Mais dans toutes les formes chroniques où vous avez un rein qui a été abîmé par du diabète, par de l'hypertension ou par une maladie génétique, non, ça ne reviendra pas en arrière. Donc ce que j'explique à mes patients, c'est que quand on a une insuffisance rénale, en soi, ce n'est pas forcément très grave, parce que comme je l'ai dit, on peut vivre normalement. Mais qu'il ne faut pas que ça progresse. Ce que je veux, c'est éviter que ça progresse jusqu'à la dialyse, et c'est possible. La majorité des patients ne vont pas à la dialyse. Et pour ça, eh bien, il y a deux choses extrêmement importantes. Il y a une partie du travail qui sera faite par le médecin, nous, moi, et une partie du travail qui sera faite par le patient. Et le patient est plus important que l'ordonnance.
Ah, on va voir ça.
Alors, on va commencer par le médecin. Vous prescrivez des traitements qu'on appelle néphroprotecteurs pour protéger le rein?
Absolument. Alors, parmi les choses qu'il faut absolument faire, il y a l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, ça va détruire plein de choses, pas que les reins, le cœur et le cerveau, mais les reins aussi. Et quand on a un rein malade, on a une hypertension artérielle et ça devient un cercle vicieux. Donc, il faut casser ce cercle vicieux. On donne des médicaments pour faire baisser la pression artérielle à 13, 8 ou moins. Et en plus, certains médicaments, c'est à quoi vous faites allusion, qu'on appelle des bloqueurs du système rénine-angiotensine, vont être en plus néphroprotecteurs. Autrement dit, ils vont non seulement baisser la pression artérielle, mais ils vont avoir un effet supplémentaire propre à eux qui fait qu'ils vont protéger les reins. Donc, on en donne beaucoup. Les patients les connaissent, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs d'enzymes de conversion ou les artans. Ça, c'est une mesure extrêmement importante.
Ils marchent bien, ces médicaments.
Ils marchent très, très bien. Mmh. Et les autres mesures sont simples. Hein. C'est contrôler, en fait, tout ce qui va agresser le rein. Donc, c'est facile. C'est si vous avez un diabète, il faut bien contrôler le diabète. Si vous avez un taux de cholestérol trop élevé, il faut bien contrôler le taux de cholestérol. Si vous avez une anémie, un manque de globules rouges, il faut contrôler l'anémie. Si vous fumez, c'est un point extrêmement important.
Oui, on pense que c'est toxique que pour les poumons, mais
non.
Pour les reins, c'est très mauvais.
En fait, c'est toxique pour toutes les artères. Et comme le rein, c'est l'organe le plus vascularisé du corps, c'est évidemment toxique pour le rein. Donc ça, ce sont des facteurs de risque. On les supprime et déjà, quand on fait ça, on a une très forte protection. Au pire, on ralentit nettement. Au mieux, on stabilise.
D'accord. Alors, vous avez dit, il y a deux phases, le médecin et le patient. Vous avez dit que le patient est encore plus important. Du coup, dans son hygiène de vie, que peut faire le patient tous les jours?
C'est capital.
Puis si le patient est plus important que le médecin, on veut savoir. Hein.
Là, il est. Alors moi, je leur dis toujours, moi, c'est 10%, vous, c'est 90%.
Ah oui,
et
vous
ensemble...
allez loin, là.
Ah oui,
vous
ne
savez pas grand-chose, finalement.
Non, rien du tout. Et ensemble, on fait 200%.
Oh, c'est génial.
Je le motive. Alors, la liste, elle est simple. Vous savez, c'est la liste qu'on connaît, mais elle est capitale. Activité physique, 30 minutes de marche par jour. Nutrition. Moi, je dis régime méditerranéen, il ne faut pas faire compliqué, c'est magnifique. Bien dormir, gérer son stress, Dans le gérer son stress, je mets toujours musique et lecture qui sont les plus puissantes anti-stress qui puissent exister. Quand vous avez un mode de vie qui est sain, eh bien, vous modifiez totalement votre avenir, non pas que néphrologique, mais votre avenir global. Et pourquoi ? Parce que le rein, c'est un organe sentinelle. Si vous protégez le rein, vous protégez tout le corps.
On va redétailler toutes ces mesures de prévention juste après, mais en revenant sur l'insuffisance rénale, je crois qu'il y a quand même plusieurs stades, comme dans beaucoup de maladies. Il y en a même 5, il me semble, donc du moins grave au plus grave, ce qu'on appelle à la fin l'insuffisance rénale terminale. Et ces patients-là, on doit les mettre parfois en dialyse. C'est quoi, grosso modo, on va dire, le principe de la dialyse ?
Alors, c'est ça. En fait, le grade 5, c'est lorsque votre fonction rénale est inférieure à, on va dire, 15%. Et en dessous de 10%, ça ne suffit plus pour vivre. Pour vivre.
On meurt si vraiment.
Vous allez mourir si vous ne faites rien. Donc on a besoin que le sang soit épuré. Et pour épurer le sang, eh bien, on va le faire épurer majoritairement par une machine. On va faire sortir le sang de votre corps, alors pas tout en même temps, hein, bien entendu, parce qu'on appelle une fistule artério-veineuse, qu'importe le détail. Il va passer dans une machine. Dans la machine, il va être filtré, on va enlever en fait toutes les cochonneries qui ont été accumulées.
La machine
dans
fait
les
le rôle
les
du rein. Quoi,
c'est le rein artificiel. Puis on va vous restituer votre sang qui aura été lavé. Ça dure 4 heures. Et le plus souvent, pour la majorité des patients, on va faire 3 fois 4 heures par semaine.
C'est quand même assez lourd. Hein.
Et est-ce qu'on a fait des progrès ? Parce que ça reste quelque chose d'assez fatigant. On se rend compte de faire ça plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par jour. Est-ce que leur qualité de vie est plutôt correcte avec la dialyse ?
Alors, on va dire qu'elle est correcte. Alors, pourquoi 3 fois 4 heures ? Parce que 3 fois 4 heures, ça représente que 12 heures, ça, jusque-là c'est trivial, et c'est juste 7% d'une semaine normale.
Oui.
Les reins, ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures par semaine, donc c'est un minimum. Si on pouvait dialyser les gens, nos patients, 12 heures par jour, on ferait, mais c'est évidemment impossible. Oui, ça donne une vie tout à fait correcte, puis après c'est très variable d'un patient à un autre. Vous avez des patients qui supportent très bien l'hémodialyse, et vous avez des patients qui la supportent moins bien. Et je voudrais souligner que vous avez même des patients qui sont des sportifs de très haut niveau. Alors, ils ne vont pas faire 3 fois 4 heures, ils vont faire plus.
Ah oui.
Mais vous avez des patients qui ont été faire le trail de la Réunion là, en étant dialysés. Ils se faisaient dialyser de façon quasi quotidienne. C'est pour vous dire que, oui, on a eu des progrès technologiques extrêmement intéressants pour ce qui est de l'hémodialyse. Il y a une autre technique qu'on va citer quand même, c'est la dialyse péritonéale. On vous met un petit cathéter dans l'ombilique. Et en fait, on va vous mettre du liquide dans le ventre. Ce liquide va échanger avec ce qui se passe dans votre corps. Les cochonneries vont passer dans le liquide du ventre, et ensuite je vais vous le réenlever. Ça représente à peu près 7% de la dialyse en France.
Une autre méthode, d'accord. Écoutez, dans l'état stade ultime, il y a évidemment la greffe, mais on n'a plus le temps à ce moment-là, on en reparlera. On fera une autre émission sur ce sujet.
Avec plaisir.
Professeur Deray, on va faire juste une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi. C'est le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Professeur, après avoir parlé des dysfonctionnements de nos reins, on va tenter avec vous de les éviter, ces dysfonctionnements. On va parler prévention. Et donc, l'un des premiers ennemis de nos reins, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le sel.
Alors tout d'abord, moi je voudrais dire que ce mot prévention, il faudrait qu'on le prononce 15 fois par jour. Nous ne faisons pas de prévention en Europe. Nous laissons exploser diabète, hypertension artérielle et obésité. Et aux États-Unis, par exemple, le diabète et l'obésité, c'est 50% des patients en dialyse. Wow. On en prend le chemin. Et donc, il faut absolument qu'on change notre mode de vie. Et il y a aussi ce qu'on mange. Alors, vous venez de citer le sel. Nous vivons dans un monde extrêmement salé. Ça fait des dizaines d'années que je dis à mes proches, arrêtez. La consommation de sel recommandée, c'est 5 à 6 grammes par jour. La consommation moyenne en France, c'est 10 grammes. Et encore 10 grammes, c'est ceux qui font attention. Et donc, oui, le sel, c'est un des grands méchants. Il y en a absolument partout. Donc, si vous voulez manger à peu près correctement...
Donc, c'est même pas la salière que vous montrez du doigt.
Plus que ça, la salière ne devrait pas exister.
D'accord.
Et idéalement, ne salez pas les aliments quand vous cuisinez, remplacez-les par des épices. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, le sel, ce n'est pas addictif comme le tabac. Et donc, vous pouvez enlever le sel sans souffrir, sauf au niveau des papilles. Et les papilles se renouvellent. Chaque papille se renouvelle chaque semaine et au bout de 2 à 3 mois, vos papilles sont complètement renouvelées.
C'est intéressant.
Donc pendant 3 mois, vous allez dire « Oh là là, c'est pas salé ton plat ». Et au bout de 3 mois, vous allez dire l'inverse. Vous allez dire « C'est trop salé ton plat ».
Bon, on va essayer.
Et le sel masque le goût des aliments. J'aimerais beaucoup d'ailleurs discuter de tout ça avec un cuisinier.
Alors vous n'avez pas un cuisinier.
Alors c'est pas lui.
Top Chef, c'est pas encore pour cette année. Alors on va continuer de parler alimentation. Vous l'avez évoqué, le régime qu'il faudra adopter, c'est le régime méditerranéen. Pourquoi cela ?
Alors d'abord, je l'aime beaucoup et ça devrait être une priorité européenne. On devrait, et je pèse mes mots, on devrait au niveau européen faire des études, il y en a mais pas assez, et faire en sorte que nos enfants, parce que ça démarre par les enfants, et ce régime méditerranéen, il est connu évidemment depuis la nuit des temps. Et pourquoi ? Parce qu'on dispose de centaines d'études qui montrent que le régime méditerranéen protège contre Alzheimer, cancer, infarctus, protège le rein, protège les maladies digestives. Il est extraordinaire ce régime méditerranéen. Donc c'est vraiment le régime qu'il faut mettre en place pour tout le monde.
Vous avez dit avec de l'activité physique, bien sûr. Et autre chose qu'on nous avait dit tout à l'heure qui était un peu plus étonnant, pour garder nos reins en bonne santé, il lui faut du plaisir, des câlins, de la musique. Alors là, je vais expliquer moi plutôt.
Ah mais oui.
Même si on aime les câlins en ce moment, c'est pas très recommandé. Mais bon.
Plus encore en ce moment. Si, on va garder les câlins avec ceux qu'on connaît bien. Parce que de toute façon, on est avec eux tout le temps, donc on risque rien avec cette fameuse colite. Dans la liste des facteurs de risque de mauvaise santé, il y a effectivement la gestion du stress et la sensation de bonheur, je vais dire. Et ça a un impact médical. Lire 6 minutes, lecture papier, ça diminue votre taux de cortisol de moitié. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Écouter de la musique, c'est un antistress qui est très, très, très puissant. On pourrait faire une demi-heure sur les effets médicaux de la musique. C'est un antidouleur, c'est un antalgique, la musique. Il devrait y avoir de la musique dans tous les hôpitaux. On devrait écouter de la musique, je vous le conseille d'ailleurs, avant d'aller faire une chimiothérapie, avant d'aller faire un scanner ou une IRM qui vous stresse. Il devrait y avoir de la musique dans tous les services de neurologie, donc ce sont des points extrêmement importants. Insistons également sur le sommeil, qui est vital et il doit être bien fait. Et insistons sur la notion de câlin au sens large, c'est-à-dire câlin avec ou sans rapport sexuel. Quand vous prenez la main de quelqu'un, la main d'un proche, et que vous lui caressez la main, c'est un geste antalgique. Quand un papy ou un mamie s'occupe de ses petits-enfants sous l'angle de « je te caresse la joue, je te caresse la main », il modifie son avenir. Je suis très, très sérieux.
C'est incroyable ce que vous
dites, ouais. Il modifie son avenir immunitaire, son avenir sanitaire. D'ailleurs, la Covid nous a impacté à cet égard, mais on va en sortir de la Covid en 2021. Ça, j'ai aucune inquiétude. Donc cette notion de câlin au sens large est extrêmement importante. Il faut qu'on y veille.
Donc ça veut dire que pour prendre soin de sa santé, il faut prendre soin de ses reins, tout simplement.
Eh bien, c'est ça. Le rein, c'est un organe sentinelle. C'est-à-dire, si vos reins vont bien...
C'est le seul ouvert sur l'extérieur aussi.
Exactement. Vous n'avez pas de pipi du cœur. Je suis très fier, d'ailleurs. Vous n'avez pas de pipi du cerveau. En fait, avec le rein, je dois vous dire, j'ai le syndrome du papy qui, évidemment, trouve que son petit-fils ou petite-fille est la plus belle, la plus intelligente.
Un papy qui fait des bonnes punchlines, quand même.
Et comme j'ai un petit, maintenant, qui a 3 mois, il est le plus beau, le plus intelligent.
Oui,
je fais pareil avec les reins. Je les trouve magnifiques. Ils sont généreux, ils sont connectés. Et si vous prenez soin de vos reins, et vous pouvez facilement, parce que d'abord, il y a les urines, puis en plus, il y a un dosage sanguin qui est la créatinine.
Très simple, ouais.
C'est difficile d'évaluer la fonction cérébrale ou la fonction cardiaque ou la fonction hépatique, le foie. Il n'y a pas beaucoup de bon index. Je n'ai pas, moi, un index dans le sang qui permet de dire, Mélanie, ah, votre intelligence est en train d'augmenter ou de diminuer. Eh bien, je l'ai pour le rein. Donc, contrôlez vos reins, prenez soin de vos reins et vous vivrez non seulement en meilleure santé, mais vous vivrez mieux globalement.
Merci beaucoup, professeur Doré, d'être venu sur notre plateau pour cet éclairage passionnant sur l'insuffisance rénale. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que citer votre ouvrage dans lequel on apprend énormément sur ces organes qu'on connaît si mal, nos reins, malheureusement. Alors son titre, c'est « Les pouvoirs extraordinaires du rein », paru chez Fayard. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. À présent, on va passer à notre séquence, les mots du quotidien. Et pour amorcer cette chronique, on a cette question qui nous a été posée par Malika, qui a appelé de Paris. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Mon généraliste m'a dit que j'avais sûrement un ulcère de l'estomac et tout ça à cause d'une infection. Alors je suis un peu sceptique, je dois faire des examens complémentaires, mais de quoi parle-t-il précisément quand il dit infection ? Merci beaucoup.
Jimmy, d'abord, on va peut-être faire un petit rappel. Un ulcère gastrique, c'est quoi ?
C'est un trou dans l'estomac, s'il faut faire
très simple. Voilà, c'est clair, merci.
Voilà,
alors,
c'est
question
clair. Non, mais c'est vrai, c'est l'inflammation de la muqueuse digestive. Vous allez avoir une petite inflammation qui va créer une plus grosse inflammation, qui va entraîner comme une forme d'aphte. Cette aphte va se creuser et peut aboutir jusqu'à la perforation de l'estomac. Donc voilà, c'est un ulcère et donc ça fait mal.
Oui, on imagine un trou, ça doit faire mal. Alors, dans le cas de Malika, son généraliste a parlé donc d'une infection. C'est d'ailleurs l'objet de sa question. À l'origine de cet ulcère, il parle de quoi précisément ?
Alors, c'est très simple. Vous avez des facteurs protecteurs de l'estomac. Vous avez des cellules qui vont produire du mucus gastrique qui est censé vous protéger. Et puis de l'autre côté, vous avez de l'acidité qui va venir un peu abîmer la muqueuse et qui va être en particulier sécrétée par des bactéries, notamment l'hélicobacter pylori, qui est une infection du coup bactérienne, qui va entraîner l'ulcère et donc on va chercher à éradiquer lorsque vous avez un ulcère.
Elle dit qu'elle va faire des examens complémentaires. Comment on le confirme ce diagnostic d'ulcère peut-être dû à cette bactérie dont vous venez de parler?
Deux possibilités. La première, on fait une fibroscopie, une petite caméra qu'on met dans la gorge, dans l'œsophage et dans l'estomac pour visualiser l'inflammation et pour faire des biopsies, des prélèvements et mettre en évidence cet hélicobacter pylori. Et puis vous avez de nouveaux tests qu'on appelle des tests respiratoires. Vous allez l'acheter à la pharmacie sur prescription médicale. Vous allez au laboratoire, vous soufflez dans un espèce de tube et on va essayer de détecter sous l'air expiré cette bactérie.
La présence de cette bactérie,
exactement.
C'est incroyable.
Et par contre, si c'est positif, souvent, on doit faire quand même une fibroscopie parce que derrière, on veut être sûr que c'est vraiment qu'un ulcère et pas autre chose.
Et on est d'accord, il ne faut pas négliger ça. Comment ça se traite, cette maladie, l'ulcère dû à cette bactérie?
Alors, du coup, c'est une bactérie, donc on va donner des antibiotiques.
Oui, je suis. Hein.
Exactement. Alors là, cette fois-ci, il faut vraiment prendre des antibiotiques pour éradiquer l'infection. Et puis, on va donner des protecteurs gastriques qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons. Et puis surtout, on va vous dire de faire attention à certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires, qui vont agresser la muqueuse de l'estomac, l'alcool, le tabac, tous ces facteurs qui peuvent vous donner de l'ulcère. Et parfois, on parle du stress, mais le stress, en réalité, ne donne
pas d'ulcère.
C'est un facteur prédisposant, en revanche, à avoir cet ulcère.
Et on est d'accord, il ne faut pas négliger ça, parce que vous avez dit que ça pouvait aller jusqu'au trou. Un ulcère non traité, ça peut avoir de graves conséquences.
Et il y en a plusieurs. La plus grave, c'est l'hémorragie digestive, vu qu'un saignement va se créer au contact de l'ulcère. Et donc, vous allez vomir du sang, ce sang va être digéré et découvert dans les selles.
Donc, on consulte très tôt, c'est mieux.
On consulte à ce moment-là dans la forme d'une urgence, mais c'est déjà trop tard. Je vous ai dit, il peut y avoir un trou, c'est ce qu'on appelle la perforation. Ça va entraîner une péritonite, c'est très douloureux. Et puis, vous allez avoir parfois une sténose, c'est-à-dire que l'estomac va se rétrécir et donc vous allez avoir des difficultés alimentaires.
Donc, c'est quoi les signes évocateurs pour éviter d'en arriver à tout ce que vous venez de décrire qui est cataclysmique?
Alors, souvent, c'est des crampes au niveau de l'estomac, c'est-à-dire au-dessus du nombril. Souvent, les gens ont du mal à situer l'estomac. Ils me montrent au niveau du bas-ventre, alors que non, c'est en haut. Donc, au-dessus du nombril, qui sont calmés par l'alimentation. Sauf que ces symptômes ne sont présents que dans 40% des cas. Ces symptômes, les patients vont consulter. Ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, vous avez moins de symptômes, juste un peu d'inconfort digestif, des aigreurs.
Ça brûle.
Ouais. Et donc dans ces cas-là, je vous conseille d'aller voir le médecin et on vous donne un traitement d'épreuve. Si ça passe avec le traitement, on s'arrête là. Et si dès lors qu'on arrête le médicament, vous avez de nouveau des symptômes, direction le gastro-entérologue pour faire une fibroscopie.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous, avec le docteur Jimmy Mohamed depuis 15h. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui fait son entrée.
Catherine Blanc,
c'est un peu agressif, non? Vous voulez que vous dites
non, c'est mignon.
C'est Catherine Blanc
non, mais
qui
c'est
rentre
très mignon.
Et Catherine Blanc, oui c'est ça, qui rentre en studio. Catherine, aujourd'hui, Jimmy insistait pour que l'on parle d'un thème qui lui est cher. Il aimerait savoir quelles sont les positions sexuelles préférées des femmes. C'est très simple, il me l'a posé comme ça, je me suis dit, j'ai demandé à Catherine aussi simplement que ça. Alors Catherine, chaque femme est différente, on va l'expliquer à Jimmy déjà.
Mais c'est ça, et quel besoin de savoir les positions préférées des femmes.
Oui, mais il aime bien les cours, les choses carrées, Jimmy.
Non, mais pas top 3.
A priori, on ne va pas faire l'amour avec les femmes. Non. Donc on devrait se poser la question des positions préférées de ma femme. Et auquel cas, lui demander à elle et pas à moi.
Bon, alors en général, sans parler de Jimmy qui s'en fiche en réalité.
Ceci étant, je crois que c'est encore une fois, c'est compliqué parce que ça dépend du regard que l'on a sur soi et de ce que l'on veut investir. Si j'investis mon vagin ou si j'investis mon clitoris, évidemment que ce n'est pas la même position que je vais solliciter.
Ça veut dire quoi, investir son vagin?
C'est-à-dire
ou
si,
investir
si quand je fais...
Moi, en termes d'investissement, je ne comprends pas trop là.
Non, mais je veux dire par là que si ce qui est important pour moi, ce qui révèle ma féminité, j'ai envie de voir solliciter ou là où j'ai le sentiment que je sera la base, la source de mon plaisir, de ma jouissance ou de mon orgasme, selon que je l'investis plutôt intérieurement, donc mon vagin, ou extérieurement mon clitoris, bien que je le rappelle, par la voie vaginale, on stimule aussi le clitoris, puis le corps du clitoris. Mais évidemment que toutes les positions ne seront pas identiques d'une femme à une autre, selon justement le regard qu'elles portent sur leur corps et sur leur sexe. Si donc mon désir est un désir de pénétration profonde, évidemment que les positions qui permettent cette pénétration profonde seront préférées, à savoir notamment la position dite d'andromaque, c'est-à-dire quand la femme est sur l'homme, que les deux soient assis ou qu'elle soit sur l'homme qui lui est allongé, ou si c'est une autre pénétration profonde qui peut être en levrette, c'est-à-dire de dos, puisque effectivement il pourra y avoir une autre stimulation profonde, mais par voie cette fois-ci, sur la paroi dorsale cette fois-ci.
Vous avez eu un top 2 là, top 2, 3 presque.
Presque, il n'en manque plus qu'une. Mais d'ailleurs, justement, voilà. Parce qu'on a l'impression qu'il faut faire plein de positions différentes pour avoir une relation sexuelle réussie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut faire en plus des positions acrobatiques, des trucs hyper originales?
Si on regarde vraiment le Kama Sutra, il y a des trucs compliqués. Hein.
Non,
inabordables.
En fait, si vous observez.
Bien renseigné, Mélanie.
Non, je ne suis pas très souple, c'est tout.
Si vous observez votre vie amoureuse et sexuelle, vous verrez que vous aurez peut-être constaté que dans les premiers temps d'une relation, il y a beaucoup d'utilisation de beaucoup de positions. Tout simplement parce qu'on ne se connaît pas et qu'on cherche justement la position dans laquelle nous sommes et l'un et l'autre le mieux stimulé. Et donc évidemment, par la démultiplication des positions, on va pouvoir solliciter des points différents de nos sexes respectifs. Donc évidemment, dans les couples, à partir du moment où on se connaît bien, eh bien on sait ce qui nous plaît plus et on a tendance du coup à le répéter, ou ça nous plaît plus parce que c'est plus excitant ou c'est plus jouissif, ou parce que c'est plus reposant et ça nous permet de le faire plus souvent. Donc en l'occurrence, la sexualité, c'est justement un bon compromis entre ce qui est facile et donc qui nous permettra de le faire aisément sans être obligé d'avoir dormi 4 jours pour avoir la capacité physique et à la fois ce qui nous permet d'être le plus rapidement excité et dans la jouissance. Et donc tout à l'heure je parlais de pénétration profonde, si maintenant je préfère être stimulée plutôt sur un frottement au niveau du gland,
c'est le top 3 là,
du gland du clitoris,
évidemment
que toutes les positions où ce sera, là, si on fait référence bien sûr qu'au coït, hein, je ne parle pas de masturbation non. En plus, eh bien, toutes les positions où ça sera, l'homme sera sur la femme et de façon très proche pour que le va-et-vient frotte le clitoris seront évidemment donc la position du missionnaire préférée à ce moment-là.
Bon, ben on a eu notre top 3, c'est bien. Dernière question, Jimmy.
En parlant de va-et-vient.
Mais poser la question à vos femmes, c'est quand même ce qui marche le mieux.
Oui, je suis là en tant qu'expert, c'est pas un problème personnel. Vous parlez du va-et-vient, est-ce que quand on musique, le tempo, le rythme a une importance?
Alors oui, mais pas tout le temps. Oui, mais du coup, pas le même tempo. C'est-à-dire que c'est pas une récurrence systématique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir ralentir, réaccélérer. D'ailleurs, souvent, les femmes l'indiquent. Elles l'indiquent par leur propre mouvement, par la façon d'attraper aussi le corps, les fesses de l'homme.
Pour il peut y avoir des changements de rythme. Quoi.
Exactement. Et parfois,
c'est une même mélodie.
Exactement. Et puis, encore une fois, même pour l'homme, varier le rythme, écrire une musique plutôt que d'être dans quelque chose d'assez répétitif, assez bêtement.
Hein. C'est si joliment dit, alors que nous, on est des bourrins.
Moi, ça va. Hein, je suis
tout à l'heure, votre rappel sur la souplesse, à mon avis, c'était pas très fort.
Okay. Merci beaucoup Catherine avec vous. La sexo devient même poétique, merci. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Ah, plus nobel la vie. C'est le thème de notre émission,
c'est
Mathieu.
C'est un titre que vous avez trouvé, je tiens à le signaler.
Le jeu de mots est excellent. Mais, bon, écoutez, on va parler des prix Nobel parce que en ce jour, évidemment, vous le savez, c'est la remise officielle des prix Nobel à Stockholm. Jean-Paul Sartre qui l'a refusé. Gabriel Lippmann qui a inventé le procédé qui vous permet d'envoyer des photos en couleur. Et vous avez choisi des drôles, je ne les connais pas.
Et un Nobel contemporain français, il n'y en a pas beaucoup, mais en revanche, un ignoble, c'est des Nobel qui récompensent un petit peu, voilà, des trouvailles un petit peu non académiques. Et bien, en 2019, c'est Roger Mieusset et Bourras Benghoulifa, deux Français qui ont reçu le Nobel, pour leur étude très intéressante sur l'asymétrie thermique testiculaire. Qu'est-ce que c'est? Restez sur Europe 1 pour le découvrir.
Je vous souhaite une excellente émission, messieurs. Merci beaucoup. On sera à l'écoute, bien évidemment. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.